cette année-là sur Radio Grand Ciel, d'une émission préparée et présentée par Christina Fautard et
Elisabeth Cougé.
Voilà. Alors, cette année-là, 1999, c'est une année vraiment spéciale, n'est-ce
pas ?
Oui,
puisqu'elle clôt le 20e siècle et le deuxième millénaire. Mais c'est assez différent de 999, 1000 ans plus tôt, où on avait très peur de l'an 1000. En 1999, on a plutôt joué à se faire peur avec la crainte d'un bug informatique. Mais en fait, on était loin des angoisses apocalyptiques du Moyen-Âge, tout au moins à ce moment-là.
C'est une bonne nouvelle aussi cette année, dès le début, le 4 janvier, puisque Jean-Pierre Chevènement, victime auparavant d'un accident d'anesthésie, reprend ses fonctions. La presse parle de miracle républicain.
Un retour à la vie aussi impressionnant qu'inespéré. Le 24 janvier, 1 million de jeunes assistent à la messe en plein air à Mexico, célébrée par Jean-Paul II, qui devient une star charismatique chrétienne. À Paris, ce même mois, s'éteint Raymond Péné, à l'âge de 91 ans. Il était né au tout début du siècle, en 1908.
Et oui, n'oublions pas que c'était le créateur des charmants amoureux
que nous avons en tête.
Les amoureux de Péné, qui étaient si touchants, tendres et naïfs, dans une ambiance complètement différente. Le 2 février, un autre homme est acclamé par la foule en liesse. 1 million de Vénézuéliens, c'est le nouveau président Hugo Chavez. Il s'est présenté comme le messager de la résurrection, prêt à engager processus révolutionnaire. C'est assez étonnant là.
Dont on sait aujourd'hui qu'il s'agit plutôt d'une descente aux enfers.
Oui,
le pays, bien que très riche en pétrole, s'est enfoncé dans la crise. Et beaucoup de
dont
gens
le résultat,
ont choisi d'émigrer, exactement. Le 7 février, à Amman, en Jordanie, disparaît le roi Hussein, à 63 ans. Il avait échappé à 15 attentats, et c'est la maladie qui l'a terrassé. L'aîné de ses fils, Abdallah, lui succède sur le trône. Hussein de Jordanie a régné sur son pays pendant près d'un demi-siècle. Il était au pouvoir depuis mai 1953 et ce souverain hachémite, descendant du prophète, aux origines bédouines, est parvenu à rester proche de son peuple. Malgré l'erreur de la guerre des six jours, où il perdit en 1977 la Cisjordanie et Jérusalem-Est, il restera comme un homme de paix, qui négocia secrètement avec Israël pour éviter l'embrasement de la région.
Alors, c'est bien comme explication, on comprend mieux même de ce qui se passe encore aujourd'hui. Hein. Voilà, à la suite de cette bataille. Voilà. Alors, ce qui va aboutir à la signature d'un traité de paix avec l'État hébreu en octobre 1994. Alors, beaucoup plus légèrement changeons de sujet. En France, le 3 février, sortira un film consacré à un héros de la résistance française.
Jean Moulin ?
Non, Astérix. Film de Claude Zidi et qui est le film le plus cher du cinéma français pour l'instant.
Qui essayait de protéger contre vents et marées son petit territoire de Gaule. Au cœur de l'océan Atlantique, encore une héroïne, mais une vraie héroïne cette fois-ci, ce 16 février, c'est Isabelle Autissier. Elle a vécu de longues heures de cauchemar, coincée dans la coque de son bateau renversé. Une grande frayeur dans cette course autour du monde en solitaire. C'est un de ses concurrents les plus proches, l'Italien Giovanni Soldini, qui a fait aussitôt route pour la soutenir. Par chance, elle avait pu s'aménager une cellule de survie sous la quille du bateau.
Merveilleux l'attitude des sportifs entre eux dans
l'océan perdu au
milieu
des flots.
Oui, voilà, dans les difficultés finalement, voilà, ce qui compte, c'est
ça rappelle
la vie,
le Vendée Globe
c'est la
aussi,
vie, voilà, exactement. Bertrand Piccard va réaliser le vieux rêve de Jules Verne, Il va faire un premier tour du monde en ballon, sans escale.
Ceci en 1999, et 20 ans plus tard, Bertrand Piccard accomplira un tour du monde sur un avion à énergie solaire, le Solar Impulse. Il fera 40 000 km sans carburant, comme dans le ballon, d'une certaine façon. On peut dire qu'en 1999, le ballon a été la dernière aventure du XXe siècle. Solar Impulse sera la première aventure à représenter les enjeux du XXIe siècle.
Oui, très, très prometteur déjà. Alors, à Los Angeles, c'est la remise des Oscars cette année-là, comme d'habitude. Et c'est l'Oscar du meilleur film étranger et du meilleur acteur qui serait remis à Roberto Benigni pour un film qui s'appelait « La vie est belle ». Vous vous en souvenez très certainement, je pense. Hein. C'était déjà le titre d'un autre film de Frank Capra en 1946, où un ange venait au secours d'un homme au bord du suicide et qui le ramènerait à l'espérance.
Et dans le film de Roberto Benigni, celui-ci raconte comment un père parvient à faire croire à son fils que leur séjour en camp de concentration est en fait un grand jeu. Un film émouvant d'une grande sensibilité. Le 12 mars 1999, le violon de Yehudi Menuhin se tait pour toujours. Issu d'une famille juive qui venait de fuir les pogroms de la Russie tsariste, Yehudi Menuhin était né à New York le 22 avril 1916. Ce prodige du violon avait été formé très tôt par le grand compositeur et violoniste roumain Georges Enescu.
Sa carrière fut éblouissante et éclectique. Écoutons-le.
Dans une sonate de César Franck.
Voilà, nous reprenons et cette année 1990, nous égrenons les pages de cette année-là, qui n'est pas si loin que ça de nos jours, mais quand même en année. Ah oui, c'est vrai, ça s'est passé.
C'est quand même au siècle dernier.
Ça s'est passé à cet âge-là. Et, voilà, alors donc nous nous retrouvons en 1990 et 9. Nous parlons de l'équipe de rugby des Cinq Nations. Cette année-là, elle va terminer avec la cuillère de bois à la dernière place, après sa défaite contre l'Écosse. Douche écossaise, dirions-nous.
Oui, après avoir quand même gagné les deux précédents, elle se retrouve à la dernière place cette année-là.
Heureusement, il y avait Roland Garros qui était beaucoup plus gai, puisque c'est André Agassi, le beau petit blond qui devient le grand vainqueur du tournoi de tennis sur terre battue.
Ça, c'est sur la terre. Tandis que bien haut dans le ciel, trois astronomes découvrent, en 1999, un nouveau système solaire. Situé à 43 années-lumière de la Terre, je n'ai pas fait le calcul exact.
Eh bien, quand on sait que par seconde, je crois qu'il fait 300...
Bon, voilà, je laisse nos auditeurs faire le calcul.
C'est ça, oui, c'est
voilà.
Ça par seconde. Oui,
Donc, ça fait
beaucoup de zéros, certainement.
Ce nouveau système solaire comprend au moins trois planètes de la taille de Jupiter, gravitant autour de l'étoile Epsilon d'Andromède.
Alors, dans le même ordre d'idée, la guerre des étoiles bat tous les records au box-office. Le film de George Lucas rapporte des millions de dollars dès son premier jour d'exploitation.
Après le cinéma, la peinture. La scène, le fameux chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, est à nouveau exposée après des travaux de restauration qui ont quand même duré 21 ans. Et si vous avez eu la chance de le voir, on se rappelle ces couleurs éclatantes et cet immense tableau.
Je vous rappelle que c'est au Louvre, donc vous
exposé
pouvez toujours
au Louvre,
aller
bien
le voir.
Sûr, bien sûr, on peut toujours le voir. Et c'est aussi cette année-là, le 19 juin, que l'épave d'un bateau est retrouvée dans la mer Baltique. Mmh. Et ce bâtiment avait disparu en 1771 au large de la Finlande, chargé d'œuvres d'art destinées à l'impératrice de Russie, Catherine II.
Qui ne l'a donc jamais réceptionnée.
Et je suppose que ces œuvres d'art étaient en très très mauvais état.
Ah ben j'imagine, au bout de tant de temps sous l'eau. Donc. Et voici une nouvelle qui arrive à ce moment-là des États-Unis. Et qui paraît encore en 1999, tout à fait surprenante. Alors, on prévoit qu'un Américain sur deux, dès 2006, utilisera chaque jour les technologies de l'information. Quelle idée, n'est-ce pas ?
Mais oui.
Car l'Internet est déjà le principal moteur de la croissance américaine en 1999. Alors, aux États-Unis aussi, un drame éclate malheureusement dans un lycée. Et deux jeunes de 13 à 18 ans vont tuer 13 de leurs camarades avant de se suicider. Et malheureusement, c'est un début de toute une série qui continue.
Qui arrive encore.
Exactement.
Et le pays, comme d'ailleurs aussi aujourd'hui, quand ça arrive, est sous le coup du chagrin et de l'incompréhension. D'autant qu'une autre nouvelle attriste et bouleverse les Américains. John Fitzgerald Kennedy Jr., surnommé John,
ouais.
Fils du président assassiné à Dallas, se tue à bord de l'avion qu'il pilotait le 16 juillet.
Eh oui. Au Maroc va disparaître Hassan II, notre ami le roi, comme on l'appelait. D'après, c'est peut-être un peu... une connotation un peu moqueur, voilà, moqueuse tout ça. Donc après 38 ans de règne, il était en fait devenu roi du Maroc à la mort de son père Mohamed V en 1961. Selon lui, le Maroc est un lion qu'il faut guider avec une laisse, mais il ne doit jamais sentir la chaîne.
Donc, c'est peut-être une
finalement,
façon...
Finalement, leur faire croire qu'ils sont libres...
De concevoir la politique. Voilà,
oui. Sans l'attouement.
Le 17e souverain alaouite, 35e descendant direct du prophète, d'un tempérament autoritaire et habile, d'où la laisse, laisse place à son fils Mohamed VI. Un nouveau personnage, quant à lui, apparaît sur la scène politique internationale. En Russie, pour y rester longtemps, un certain Vladimir Poutine, âgé de 47 ans.
Alors faites vos calculs, vous verrez quel âge a-t-il maintenant.
La carrière de ce jeune Vladimir Poutine, jusque-là, s'est déroulée de l'autre côté du miroir, là où se font et se refont les complots dans les arcanes des services secrets au KGB.
Voilà, en communisme
oui,
pur
mais,
et dur.
Mais Poutine porte tous les espoirs d'une Russie humiliée qui aspire à retrouver son rang de grande nation. Mmh. Et c'est un homme à la poigne de fer qui arrive au pouvoir, mais qui devient vite populaire en dépit de ses allures martiales et glaciales.
Et le 11 août, en plein jour, la France est plongée dans la nuit noire avec un éclipse totale du soleil par la lune, avec toute la partie nord de l'Europe. La prochaine éclipse totale visible de France aura lieu en 2081. Alors sincèrement, j'imagine que tous ceux qui nous écoutent, et nous non plus bien sûr, nous ne serons pas là. Donc,
Sauf les plus jeunes quand même.
J'espère que vous avez tous eu de la chance de voir 1999.
Le 22 août, un terrible séisme ravage la Turquie. Ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier. En effet, tous les ans, la plaque anatolienne avance d'à peu près 2 cm vers l'ouest, elle-même repoussée par la plaque arabique. Quand trop de résistance s'est accumulée, le séisme est inévitable. Le bilan est catastrophique car les promoteurs, bien qu'au courant de ces phénomènes, n'ont pas respecté les normes antisismiques.
Et voilà le résultat qu'on a constaté effectivement ce 22 août 1999. Alors le 12 octobre naîtra le 6 milliardième être humain. C'est vraiment beaucoup. Mais l'accroissement de la population, pourtant, est moins fort que prévu. Le spectre de l'explosion démographique paraît écarté, sauf en Afrique, et c'est toujours le cas, je crois.
Donc voilà une naissance, et puis quelques jours plus tôt, le 6 octobre, on déplore une mort, la mort d'Amalia Rodriguez, une chanteuse portugaise qui a été l'interprète inoubliable de Fados.
Oui, ses chansons. Tu nous dis, le Fado veut dire
mélancolique.
Quoi exactement?
Fados veut dire destin.
Destin,
donc,
oui.
Voilà. Elle a aussi chanté en français, par exemple, cette belle chanson que nous écoutons maintenant, La Maison du Port.
Il y avait des chansons, les hommes venaient y boire et rêver. Dans la maison sur le port, où les filles riaient fort, où le vent faisait chanter, chanter, chanter. Les pêcheurs le diront, ils y venaient sans façon avant de partir tirer leur filet. Ils venaient se réchauffer près de nous, dans la maison sur le port. Les volets se sont ouverts et depuis, les rires des filles se sont envolés. Sous un tube de néon, un fonctionnaire à lorgnon est perdu dans ses papiers, vieux papiers. Où sont les rideaux à fleurs et les lampes de couleur, les cheveux de Maria, ses bras nus. On dirait que tout est mort et bien mort dans la maison sur le port. Je suis revenue une nuit, j'avais cru qu'on y chantait comme avant. Mais les couples qui dansaient n'étaient plus rien à présent que les ombres du passé Vainement je recherchais cette fille que j'étais, qui savait aussi chanter et aimer. Je veux dire que tout est mort et bien mort dans la maison sur le port. Pas sur mes 20 ans que je pleure, bien souvent avec les filles j'ai pleuré. Mais on aurait pu laisser nos chansons dormir en paix, nos chansons et nos amours, nos amours. Je l'ai dit à Maria et aux filles de là-bas, allons boire pour oublier un petit mal, puisque notre cœur est mort et bien mort dans la maison sur le port. Que notre cœur est mort et bien mort dans la maison sur le port.
Voilà. Voilà, nous reprenons cette année 1919, où nous sommes arrivés à l'automne avant notre pause musicale. Et on va commencer par quelques nouvelles éclectiques, puisque nous sommes déjà, on peut parler de fin d'année 1999. Le marché de l'art sort véritablement du marasme. Et le 14 novembre, un tableau de Picasso, Femme assise dans un jardin, sera adjugé à plus de 310 millions de francs. Pas euros encore.
Oui, c'était encore les francs.
Les records se succéderont dans les enchères. Hein.
Et d'autres records sont beaucoup plus tristes. Par exemple, dans ce triste rapport de l'ONU, en ce 23 novembre 1999, il signale que le nombre de victimes du sida est estimé cette année-là à 2,5 millions. Ce virus a déjà fait 16 millions de morts.
En environ 15 ans, puisque finalement, c'est à partir de 83 qu'on commence à en parler sérieusement. Il y en avait certainement d'autres morts déjà auparavant, sans qu'on le sache, sans qu'on découvre cette terrible maladie dont nous savons qu'il n'y a toujours pas de remède.
De vaccin.
Alors, on arrive au 2 décembre. On ne pense pas à Napoléon, c'est une fameuse date, n'est-ce pas? Mais bon. Une équipe de chercheurs britanniques, ce jour-là, va réussir le premier à décrypter le code génétique d'un chromosome humain. Voilà, c'est le numéro 22.
Donc, on peut dire quand même que la science progresse,
et
même
avance.
Si on ne découvre pas tout.
Absolument.
Et le 24 à Rome, le 24 décembre, nous retrouvons Jean-Paul II. On se souvient qu'il était en janvier au Mexique. En décembre, le pape ouvre la nuit de Noël, la porte de Saint-Pierre de Rome, coup d'envoi du grand jubilé pour les 2000 ans de la naissance du Christ. L'année sainte, qui commence ce soir, s'achèvera dans un peu plus d'un an, le 6 janvier 2001. Mais avant d'arriver à l'an 2000, c'est-à-dire une semaine plus tard, deux épreuves frappent la France en cette fin d'année. D'abord une tempête d'une incroyable violence, le 28 décembre, qui traverse la France d'ouest en est, semant la désolation dans plusieurs régions.
Et oui, et il n'y a pas que la France, car plusieurs d'autres pays d'Europe sont touchés. Mais hélas, la palme revient à notre pays, et c'est à la France qui va payer le plus lourd tribut.
Des toits arrachés, des arbres déracinés par centaines de milliers, le parc du château de Versailles est complètement dévasté. Les vents ont soufflé à plus de 200 km/h. Le bilan, 70 victimes, 2 millions de foyers privés d'électricité et qui seront forcés de fêter l'an 2000 à la lueur des bougies.
C'est romantique.
C'est drôle hein, pour la fin de millénaire. À cela s'ajoute une immense marée noire après le naufrage du pétrolier Erika au large de Belle-Île.
Alors, 15 à 20 000 tonnes de fioul, hélas, ont été relâchées dans la mer par ce bateau. Et on n'a rien pu faire. Le pire Noël pour les marins pêcheurs de Bretagne et de Vendée. De nombreux bénévoles sont à l'œuvre, vêtus de ciré pour ramasser le fioul visqueux. Vous vous en souvenez sûrement de ces images terribles, à voir ces pauvres
oiseaux
collés, coincés, en train de mourir finalement. Et c'est à chaque marée, il y a des nouvelles quantités qui arrivent.
Des boulettes de fioul.
C'était véritablement un travail fastidieux et ils ont mis beaucoup de temps à s'en débarrasser. La colère et le dégoût montent chez les habitants et les amoureux de la côte. Et je crois que l'écologie a fait une espèce de réveil colossal.
Brutal,
après le passage d'Erika.
Juste avant l'arrivée de l'an 2000, oui,
exactement.
Ça a donné un essor énorme à l'écologie. Et tout cela n'empêchera pas la planète de fêter à tour de rôle, selon les fuseaux horaires, l'arrivée du nouveau siècle et du nouveau millénaire.
En commençant par l'Australie, bien entendu, où un feu d'artifice géant va embraser le port de Sydney devant le fameux opéra. En Égypte, Jean-Michel Jarre va illuminer les pyramides.
Puis c'est le tour de Berlin, Londres, Paris et enfin de New York de célébrer le millénium. Tiendra-t-il ses promesses? nul ne le sait. Quant à nous, nous choisissons de le célébrer en rappelant le souvenir du compositeur espagnol Joaquín Rodrigo, dont le nom ne vous dit peut-être rien, qui s'éteignit cette année-là, nous laissant, entre autres, le magnifique concerto d'Aranjuez pour guitare et orchestre.
Alors, merci Christine. C'est sur cette belle note de musique que nous vous quittons et nous vous disons à bientôt pour une prochaine émission
cette année-là. Thank you.